France Musique. Carrefour des Amériques, Marcel Quillévéré.
Le Mexique, la musique et le monde, dixième chapitre, la mosaïque mexicaine de 1930. Soyez toutes et tous les bienvenus et merci de votre fidélité. Ce chapitre commence à Cuba, dont la musique va connaître un succès incroyable en arrivant à Veracruz. Un impresario mexicain en voyage à La Havane entend dans le quartier populaire de Marianao un orchestre qui le séduit immédiatement, le Son Cuba. Il joue dans un club social fréquenté par des gens de couleur non loin du fameux Buena Vista Social Club. Il le fait venir au Mexique aussitôt. Dès leur arrivée, les musiciens du Son Cuba jouent au port de Veracruz et c'est de la folie. C'est une incroyable découverte pour le public, car le son cubain n'a rien à voir avec le son mexicain. À chaque concert, la foule se presse, le succès est tel que tous les orchestres populaires se mettent à l'imiter. Le Son Cuba de Marianao se présente peu après dans la capitale Mexico, au prestigieux théâtre Esperanza Iris, avant de partir en tournée dans la République. C'est ainsi que le son venu de Cuba se mêle ces années-là au son mexicain et surtout au Don Son, qui fait appel à présent à un soliste chanteur, comme celui qu'interprète ici l'orchestre de José Briceño avec le ténor mexicain Juan Arvizu. « Nenita, tu me fais souffrir, tu m'oublies et je pleure. Tes baisers, c'est toute ma vie. »
De mi corazón, tú eres toda mi vida, la madre mía, flor de mi amor. Te fuiste mi negra linda, destrozado de mi corazón. Nenita, me estás haciendo sufrir, tu olvido siempre me hace llorar, tus besos, mi negra linda, tus besos me hacen vivir. Siempre me hace llorar tus besos, mi negra linda, tus besos me hacen vivir.
Le ténor mexicain Juan Arvizu. En 1928, plusieurs Cubains fuient la dictature du général Machado et trouvent asile au Mexique. Parmi eux, le jeune étudiant Juan Antonio Meilla, qui rencontre à Mexico la photographe italienne Tina Modotti, installée dans le pays depuis plusieurs années. Tous deux forment un couple très recherché par la presse du cœur. Ils sont inscrits au Parti communiste mexicain, mais ils sont très rebelles. Meilla fonde, contre la volonté du parti, une confédération syndicale unitaire avec le peintre Diego Rivera. Meilla, qui vient de faire un séjour en Union soviétique. Moscou informe le parti mexicain qu'il est trotskiste et exige son expulsion. Sachez, Meilla, qu'on ne quitte l'international communiste qu'expulsé ou mort, lui dit-on lors d'une réunion de cellule. Le 10 janvier 1929, Meilla est assassiné en pleine rue alors qu'il sort d'un cinéma avec Tina Modotti. Les responsables ne seront jamais retrouvés, même si on soupçonne à la fois le Cubain Machado et l'Internationale communiste de Moscou. Tina, elle, est expulsée du Mexique peu après, à Cuba, mais y est devenue une sorte de héros. Cette année-là, coïncidence, La Havane est pour la première fois à l'affiche des concerts symphoniques de Mexico lors de la création du ballet afro-cubain La Rebambaramba d'Amadeo Roldán. Ce concert était alors dirigé par le jeune violoniste mexicain Silvestre Revueltas. Michael Tilson Thomas à la tête du New World Symphony dans la comparsa Lucumi de La Rebambaramba, le ballet du compositeur cubain Amadeo Roldán. À Mexico, Tina Modotti était un personnage très en vue. Et c'est lors de sa première exposition de photographie qu'elle avait lié amitié avec l'écrivain britannique David Herbert Lawrence, qui faisait ces années-là des séjours au Mexique. Il s'était établi dans le site somptueux du lac de Chapala, pour écrire son roman « Le serpent à plumes ». Il était persuadé qu'il trouverait au Mexique une issue à son profond désarroi intérieur, comme dans son roman, le personnage de la jeune Irlandaise lassée de l'Europe qui vient s'y ressourcer. Elle ne trouve son salut qu'au sein d'une communauté qui voue un culte absolu à Quetzalcoatl, le serpent à plumes aztèque, persuadé que s'il est parti un jour, il est à présent de retour pour sauver le Mexique et le monde. À sa parution en Europe et aux États-Unis, le roman de Lawrence est considéré comme génial et envoûtant. Lawrence est certes un grand écrivain, mais au Mexique, l'œuvre fait polémique encore aujourd'hui. L'écrivain Manuel Carballo connaît bien son œuvre, il loue son talent d'écrivain. Mais en ce qui concerne ce serpent à plumes, il reproche à Lawrence sa totale méconnaissance du pays. « Comme beaucoup d'étrangers, écrit-il, Lawrence n'a voyagé au Mexique que dans un seul but. » Celui d'y rencontrer le paradis perdu, et comme il ne l'a pas trouvé, il s'est laissé gagner trop souvent par l'exaspération et la haine. En 1930, le paysage enchanteur du lac de Chapala a inspiré au compositeur Pepe Guissard l'une de ses plus belles chansons. C'est une interprète insolite et magnifique qui la remet en vogue dans les années 70, l'actrice américaine Jean Manson, qui a bien connu le Mexique. Elle y a passé son enfance et y a appris l'espagnol.
Redes, redes que tienden los pescadores en la laguna. Redes que noches de luna son como encajes de oscuridad en el manglar. Noches, noches de luna en Chapala, canción de pescadores, rumor de las olas que vienen y van. Chapala, son tus canoas como un cortejo de fantasía, cargas sale la luna, la marea poco a poco va subiendo en la laguna. Chapala, rinconcito de amor, donde las almas pueden hablarse con Dios. La luna ya se ocultó y se durmió. La laguna.
Jean Manson, accompagné ici par le mariachi Mezcal. Jean Manson a longtemps habité la France. Elle vit aujourd'hui en Espagne. L'Espagne, toujours aussi présente au Mexique en 1930. Ainsi, la pelote basque est plus que jamais à la mode à l'imposant fronton Mexico. Tout comme les corridas, aux arènes du quartier de la Condesa. Cette année-là, on y reconstitue une superbe course de taureaux avec calèche et costumes d'époque comme celle que Goya avait peinte au XVIIIe siècle. Même Carmen est mise en scène à nouveau dans cette Plaza de Toros. Et, précise-t-on sur l'affiche, telle qu'elle a été représentée dans les arènes de Nîmes en France, avec une initiative de taille. Au dernier acte, il y a une vraie corrida, et c'est le baryton qui chante Escamillo qui combat le taureau. Il s'agit en effet d'un grand aficionado qui a déjà toré. Quel succès! D'autant plus que c'est le ténor espagnol Miguel Fleta qui chante le rôle de Don José. Miguel Fleta, adulé par le public, qui donne plusieurs récitals populaires au cinéma Palacio, où il chante des mélodies espagnoles et des airs de zarzuela, un genre toujours aussi prisé à Mexico. Il interprète ici l'air de Jorge au premier acte du drame lyrique Marina d'Emilio Arrieta. Jorge, capitaine de bateau, revenu au pays natal pour retrouver celle qu'il aime.
Oh! tierra cadulando la vista del mar, y en sus alas el leve suspiro se hunde con la tierra, no pudo lograr. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya!
Miguel Fleta, ténor, Emilio Sachibarba, baryton, Damaris Gelabert à la tête de l'orchestre du Liceo de Barcelone dans cet air de l'acte 1 de Marina d'Emilio Arrieta. Pendant ce temps, le compositeur Silvestre Revueltas vit encore à San Antonio au Texas où il joue du violon et dirige des orchestres dans les théâtres. Malheureusement, il s'est remis à boire et on ne lui fait plus confiance. Il accepte alors la proposition que lui fait Carlos Chavez d'interpréter en soliste le concerto de Saint-Saëns à Mexico en février 1929 et de devenir son assistant à la tête de l'orchestre symphonique tout en dirigeant le tout jeune orchestre du conservatoire. En 1930, Revueltas se consacre enfin à la composition. Il écrit cette année-là son premier quatuor à cordes. Chavez est enthousiaste. Il l'envoie aussitôt à la Ligue des compositeurs américains à New York. L'Allegro Energico qui débute le premier quatuor de Silvestre Revueltas par le quatuor à cordes de la ville de Mexico. Le 18 septembre 1930 est inaugurée la radio XEW, la XEW, la Voz de América Latina desde México, la voix de l'Amérique latine depuis le Mexique, installée au dernier étage du magnifique théâtre Olympia dans le centre historique de la capitale. Et c'est tout un événement. Lors de la cérémonie d'inauguration, son fondateur et directeur, Emilio Azcárraga, remercie les mécènes qui ont permis la création de cette radio, dont la Banque de Paris, Londres et d'Amérique du Sud, fondée par des descendants de Barcelonnettes français. Puis l'orchestre typique de l'Erdo de Tejada interprète l'hymne à la joie de Beethoven. Enfin, l'invité d'honneur, c'est le ténor Juan Arvizu, venu spécialement de New York. Il interprète ici la chanson argentine de la Mulita, la petite mule sur le chemin des Andes. On l'écoute après l'indicatif légendaire de la radio XEW, la radio XEW.
XEW, la voz de la América Latina desde México, en el aire.
Mulita que vas pa'l cerro, mulita, por la huella solitaria de la sierra. Si ves a mi india amada, tráela, tráela. A orilla de los senderos, florcita, arriba del pico nieve blanquita, canciones, nieves y flores pa' ella, pa' ella. Azúcar te he de dar y te dejaré ir. Mulita, tráela a la cruz Belancú y vamos, mulita. Ahí está ella, botijas panzudas, charangos y quenas, chicha, borbollones, el violín y el arpa, casuachi, vainitos, fiesta, palacholas, cuecas, bailecitos, vamos, mulita. Tocar en noche de luna en mi quena, y si en mi brazo se duerme ley de cantar, un canto muy tierno cantará, cantará. Más rica será en la sequía en la agüita, más tierno será el pastito que te he de dar. Vamos, mulita serrana, tráela, tráela. Azúcar te iré dar y te dejaré ir libre por la montaña, mulita, tráela.
Le ténor Juan Arvizu, tel qu'on a pu l'entendre sur la chaîne de radio XW du Mexique, Fernando González Gortázar, grand connaisseur de musique populaire, nous parle de cette chaîne de radio qui existe toujours dans le pays.
Fue la primera vez que la radio se volvió verdaderamente popular.
C'était la première fois que la radio est devenue vraiment populaire au Mexique. Elle avait des stratégies très intéressantes. Par exemple, si tu achetais certains produits, on te donnait des coupons. Tu les envoyais à la station de radio et on t'expédiait en cadeau un récepteur. Personne n'avait à l'époque d'appareil de radio. C'était une station qui avait une puissance d'émission très importante. On la recevait dans beaucoup de pays d'Amérique latine, dans le sud des États-Unis et dans pratiquement tout le Mexique. D'autre part, 30% des programmes étaient enregistrés sur le vif. Ce n'étaient pas des disques. Il y avait du public dans le studio et dans un auditorium où les émissions étaient enregistrées en direct, sans parler du grand public qui les écoutait à la radio. Il n'y avait pas seulement des programmes de musique, il y en avait de toutes sortes, surtout des feuilletons radiophoniques. Il y avait un programme notamment qui s'appelait « L'heure de l'amateur ». Parmi les musiciens amateurs qui se présentaient, celui qui gagnait était invité à se produire sur la scène d'un théâtre de la capitale. C'est comme ça que plusieurs chanteurs célèbres ont commencé leur carrière. Ça a été le cas d'Agustín Lara, qui accompagnait à l'époque Juan Arvizu. Il a interprété bientôt ses propres chansons comme son tango Mujercita. Je l'ai vu dans la rue un soir alors qu'elle y vendait son amour et ses pas sur le pavé m'ont frappé en plein cœur.
Yo la vi por la calle una noche, ofreciendo a la venta su amor. Y al mirarla sentí que sus pasos me golpeaban en el corazón. Y la vi con su abrigo de pieles por la oscura calleja rondar y vender a los hombres las mieles que mi amor no le pudo pagar. Pobrecita, mujercita, al mirar tu desventura me dan ganas de llorar. Y quisiera, si pudiera, con el vino mitigar esta pena, mi nena, que me mata, que me hace emborrachar.
Carrefour des Amériques, Marcel Quillévéré.
La vi por la calle una noche, ofreciendo a la venta su amor, y al mirarla sentí que sus pasos me golpeaban en el corazón. Y la vi con su abrigo de pieles por la oscura calleja rondar y vender a los hombres las mieles que mi amor no le pudo pagar.
En 1930, à Mexico, le public aime toujours autant le théâtre populaire et surtout le théâtre de revistas. Ce genre mexicain où les intermèdes musicaux succèdent aux sketchs qui s'en prennent aux politiques, aux us et aux coutumes, et qui manient avec talent le calembour à double sens, souvent très égrillard. Quelques titres de revistas. Suba por delante, monte par devant. Auquel répond dans le théâtre d'en face, baja por detrás, descend par derrière. De plus, c'est la gouaille française qu'on entend dans des pièces comme La femme gendarme ou La vedette des folies bergères. La zarzuela hésite ces années-là entre la revista mexicaine et les revues espagnoles, comme Les muses latines de Manuel Peneya, créées à Buenos Aires et qui sont régulièrement à l'affiche dans les deux villes depuis des années. Trois joyeux drilles s'enivrent dans un cabaret et s'endorment, en rêvant chacun à une beauté venue de trois pays latins, l'Italie, la France et l'Espagne. La plus coquine des trois et aussi la plus intellectuelle, c'est évidemment la française, qui adore commenter l'actualité. C'est la scène très applaudie de la traductrice du journal Le Petit Parisien, qui informe, en censurant plus d'une fois, dans un charabia franco-espagnol, que la situation en France est alarmante, les femmes ne font plus d'enfants. De plus, un pilote de l'armée allemande s'est écrasé sur le sol français à bord d'une montgolfière. Et une fois en France, il a lâché la bride, il s'est laissé à... Ah, désolé. Traduction, pas possible.
Bonsoir, messieurs, dames. Je suis traducteur de Les Petits Parisiens. Je vais les faire l'honneur de traduire les dernières nouvelles. Hoy esta Francia atravesando muy difícil situación, porque siguiendo con este sistema se va a quedar sin hombres la nación. Las mujeres quieren conservar su juventud por la exhibición jolie charmante, y de cada 100 matrimonios que se ven no se saca ni un petit enfant. Y la pobre Francia se va a consumir porque los franceses no quieren, no quieren. Atención, n'est pas posible traducción. Je suis le traducteur de Les Petits Parisiens, le journal de vérité. Je n'y vais rien. Et pour faire les traductions, ça lit très bien. Nos cuentan desde la frontera un suceso original, el que ha alarmado mucho a los franceses, porque la cosa no es muy natural. Un piloto aéreo del ejército alemán con un globo en Francia fue a caer, pero el hombre cura por su norte militar que ha tomado tierra sin querer. Dice que el descenso no pudo evitar y que al verse en Francia empezó atención, n'est pas posible traducción. Je suis le traducteur de Les Petites Parisiennes, le journal de vérité. Je ne dis rien. Et pour faire la traduction, ça lit très bien.
La soprano espagnole Luisa de Córdoba avec l'orchestre de chambre de Madrid dirigé par Enrique Navarro, avec cet extrait des Muses latines de Manuel Penella. L'Espagne est aussi plus présente que jamais dans l'œuvre de Manuel Ponce. Comme dans les 24 préludes pour guitare qu'il entreprend d'écrire, et dans ce balletto de 1931, inspiré de la musique ancienne hispanique. Thank you. Le balletto de Manuel Ponce par le guitariste Oscar Cáceres. Enfin, ces années-là, le ministre Vasconcelos réalise enfin son rêve, la création d'un ballet national mexicain. Il se trouve que depuis 3 ans déjà, la compagnie d'opéra russe de Paris fait des tournées dans les Amériques. Créée par la cantatrice Maria Kuznetsova, elle rassemble les chanteurs et danseurs de la diaspora russe en France. En février et mars 1930, la compagnie est de retour au théâtre Esperanza Iris de Mexico avec les grands opéras de Moussorgski, Borodine et Rimsky-Korsakov, et aussi des ballets, dont l'un est représenté dans les arènes de la Condessa devant une foule considérable. Un spectacle qui s'achève par le lac des Cygnes de Tchaïkovski. Cette année-là, le danseur Hipólito Dzibin décide de rester au Mexique pour créer ce qui sera la première école officielle de danse au sein du département des Beaux-Arts. Il y enseigne, aux côtés de 2 des plus grandes danseuses mexicaines de l'époque, les sœurs Nelly et Gloria Campobello. Dzibin se passionne aussi pour les œuvres des compositeurs du pays. Par exemple, le poème symphonique « Chapultepec » de Manuel Ponce qui vient d'être créé. Son dernier mouvement, chanson et danse, lui plaît beaucoup et remporte un beau succès. Une œuvre qui est aussi très applaudie aux États-Unis quand Leopold Stokowski l'a créée en novembre 1934 à Philadelphie et à New York.
Thank you.
chansons et danses du poème symphonique Chapultepec de Manuel Ponce, Enrique Batis à la tête de l'Orchestre symphonique de l'État de Mexico. En 1930, le grand succès au théâtre, c'est notamment Topaz de Marcel Pagnol, un auteur très aimé des Mexicains. Le théâtre qui connaît cette année-là un renouveau impressionnant. Le déclencheur a été en janvier 1928 le théâtre d'Ulysse, El Teatro de Ulysses, qui crée par exemple Les Enchaînés de Jean O'Neill et Orphée de Jean Cocteau. Au théâtre d'Ulysse succède en septembre 1931 le théâtre Orientación, Orientation. On écoute l'acteur Arturo Beristain. Il y a un personnage fondamental dans l'histoire du théâtre Mexique. C'est Antonieta Rivas Mercado. Elle avait beaucoup d'argent et elle a fondé en 1928 le théâtre d'Ulysse avec un groupe d'intellectuels qui ont été essentiels dans la poésie mexicaine. Dès le départ, les représentations avaient lieu dans un appartement devant une quarantaine de personnes. C'est un théâtre dont on n'a pas compris la modernité à l'époque. On ne payait pas en entrant, mais en sortant, et les acteurs ne saluaient pas à la fin de la représentation. C'était en 1928, et par la suite, Celestino Gorostiz a fondé le théâtre d'orientation, qui, après la Révolution, a pour but d'éduquer le peuple par le théâtre, par des pièces classiques surtout. Avec un intérêt particulier pour le théâtre du XIXe siècle, celui du siècle d'or, celui de Molière. Gorostiza a été important. C'était le frère de notre grand poète, José Gorostiza. Lors de l'inauguration du théâtre Orientación, plusieurs musiciens du conservatoire avaient joué. Ils ont créé notamment le quatuor numéro 3 de Silvestre Revueltas. Le deuxième mouvement du troisième quatuor de Silvestre Revueltas par le Cuarteto Latinoamericano. En 1930, une chanteuse mexicaine fait beaucoup parler d'elle, Lucha Reyes. Et sa vie est toute une légende. Un film lui a été consacré en 1994, La Reina de la Noche, La Reine de la Nuit, réalisé par Arturo Ripstein, ancien assistant de Luis Buñuel. Lucha Reyes est née à Guadalajara en 1906. Elle avait à peine 20 ans quand elle part vivre à Los Angeles où on dit qu'elle a aussi chanté. Elle a alors une voix de soprano lyrique et se destine au répertoire de la zarzuela. Elle chante aussi dans un trio de femmes, mais ses camarades remarquent qu'elle boit beaucoup. Elle est alors engagée avec d'autres artistes pour une tournée européenne qui va l'amener jusqu'à Berlin. Le rythme des répétitions et des représentations ainsi que le climat de la ville lui sont fatales. Elle tombe malade et devient pratiquement aphone. Elle rentre alors au Mexique et tente de se refaire une voix. Une voix rauque de mezzo-soprano qui fera son succès. Elle est remarquée par le fondateur de la radio XEW, où elle commence à chanter. Elle possède une personnalité, une présence sur scène et une voix totalement hors du commun. En 1930, un impresario américain l'engage même pour chanter au fameux Million Dollar Theater à Los Angeles. La chanson qui la rendra vite populaire évoque son addiction à l'alcool d'agave qu'on appelle la tequila. Mon âme s'enivre de tequila afin de se libérer de sa cruelle mélancolie. On m'appelle la tequilera, car on m'a baptisé avec un verre de tequila.
Borrachita de tequila, llevo siempre el alma mía. Para ver si te mejora de esta cruel melancolía. Ay, por ese querer, por ser el día de
Lucha Reyes, que les Mexicains ont tellement aimé. De son côté, Agustín Lara est devenu une véritable vedette. Passionné de théâtre, il écrit un jour une revue musicale créée le 24 mai 1930 au théâtre Lirico avec la première grande star du cinéma mexicain, Celia Montalvan, qui crée sa chanson Rosa juste avant d'être engagée à Hollywood. Rosa, ton amour a illuminé ma vie. Il a soigné les blessures d'un ancien amour.
Mi vida, triste jardín, tuvo el encanto de tus perfumes y tu carmín. Brotaste de la ilusión y perfumaste con tus recuerdos mi corazón. Rosa deslumbrante, divina rosa que incendió mi amor. En mi vida, remedo de la herida que otro amor dejó. Rosa palpitante, que en un instante mi alma cautivó. Más hermosa, la primorosa flor que mi ser perfumó.
En janvier 1930, c'est un ensemble de marimbas qui arrive du Chiapas aux confins du Guatemala jusqu'à la capitale. L'ancêtre du xylophone est enfin reconnu et a l'honneur de jouer sur la scène du théâtre principal de Mexico. Un journal de la capitale avait relaté la première apparition dans les rues de Mexico d'un ensemble de marimberos venus de cette province. C'était en 1872.
Thank you.
C'est avec cet ensemble de marimbas, brisas de Grijalva, venu du Chiapas, que se termine aujourd'hui notre émission. Rendez-vous donc dans le prochain épisode de Carrefour des Amériques, une émission réalisée par Béatrice Trichet, prise de son Olivier Dupré, une émission disponible en podcast.
À réécouter sur francemusique.fr.